grande blessure, le glaive qui transperce son âme, la grande blessure dans son âme. Cette blessure qui demeure, toujours en acte, même dans la gloire. Comme la blessure du cœur de Jésus demeure toujours une blessure ouverte, l'âme de Marie garde toujours cette blessure. Une blessure d'amour, une blessure infiniment douloureuse qu'elle a connue à la croix et qui est demeurée pendant ce temps d'attente. Cette blessure que Marie a vécue durant toute la fin de son pèlerinage terrestre auprès de Jean. Cette blessure que les lamentations de Jérémie expriment à leur façon. Il y a un petit mode un peu plus expressif et poétique qu'il faut dépasser, parce que Marie a vécu dans un tel silence le mystère de la croix. Il n'y avait rien de romantique, il y avait un mystère d'amour, mais il faut bien l'exprimer. On l'exprime comme on peut, parce que nos paroles ne peuvent pas atteindre le silence de Marie. Il n'y a que la foi. Et notre foi d'enfant bien-aimé de la Vierge Marie atteint ce grand mystère de cette veillée d'armes, cette veillée de celle qui est plus terrible qu'une armée rangée en bataille. Cette veillée que Marie a vécue dans ce si grand silence d'amour, son bien-aimé, il est remis à la terre. Il est auprès de tous ceux qui, dans cette soif, dans cette espérance, l'attendaient. Et Marie vit ce mystère dans sa foi, son espérance et son amour. C'est l'ultime moment du mystère de la compassion. Ce moment que, souvent, nous ne regardons pas beaucoup, parce qu'il est tellement mystérieux, mais il est tellement grand. Même si l'Écriture ne nous dit rien, nous pouvons, dans notre foi, suivre l'âme de Marie transpercée par le glaive et nous mettre tout proche d'elle dans le silence et lui demander de nous aider à vivre de ce mystère du sépulcre. Je crois que ce mystère est très grand. Il est peut-être le grand mystère que l'Église vit actuellement, plus que jamais. Il faudrait comprendre un peu ce silence d'amour de Marie. Elle vit ce mystère dans son sacerdoce royal. De femme, Est-ce que c'est comme cela que Jésus la regarde du haut de la croix, femme, dans son grand mystère de compassion? C'est la femme qui est associée d'une manière très intime, très divine, à la grande souffrance de Jésus, à la mort de Jésus, à la mise au tombeau de son cadavre divin. Et à cette descente aux enfers, ce mystère que l'Église vit, l'Église c'est nous, que l'Église vit actuellement plus que jamais, et plus on s'approchera du terme, plus l'Église sera liée à ce mystère. C'est bien que pour nous, beaucoup d'entre nous qui ont connu la petite Marthe Robin, puisqu'on peut dire que la communauté Saint-Jean est née auprès d'elle, à travers ses souffrances et surtout à travers son amour. C'est elle qui l'a demandé à Dieu. Et Marthe, elle a vécu le mystère du sépulcre. Je crois qu'on ne comprend rien au mystère de Marthe si on ne se met pas dans cette lumière de la compassion. Et dans cet ultime moment de la compassion de Marie. Et c'est pour ça que ce soir, c'est tellement difficile de ne pas parler d'elle, ici, entre nous, dans l'intimité. C'est sûr, ça reste un secret, tant que l'Église n'a rien dit et ne s'est pas prononcée. Mais comme nous avons été liés à ce secret, d'une façon très forte, nous continuons de l'être. Et quand je dis nous, c'est le point de départ de la communauté Saint-Jean. C'est beaucoup d'entre vous. Le mystère du sépulcre, séparation de l'âme et du corps, vécu dans l'unité. Marie vit ce mystère du sépulcre, de la sépulture de Jésus, de la sépulture de son cadavre remis à la terre. Elle le vit dans sa foi, son espérance et son amour. Le cadavre du Christ est adorable. Et Marie continue de l'adorer, puisqu'il demeure lié au Verbe, qu'il subsiste dans le Verbe de Dieu. La mort a pénétré dans le mystère du Verbe de Dieu. La séparation de l'âme et du corps. A été portée par le Verbe de Dieu. Et Marie, dans sa foi, vit cette séparation. En elle s'est réalisée l'unité. C'est normal qu'elle vive cette séparation de l'âme et du corps d'une manière tellement violente. Qu'elle la vive par amour. La violence peut être dépassée par l'amour. La mort est toujours quelque chose de violent, puisque c'est une conséquence du péché. S'il n'y avait pas eu le péché, il n'y aurait pas eu la mort. C'est une conséquence du péché. Et Jésus l'a porté pour être le rédempteur de ces pauvres hommes pécheurs, de ces hommes qui subissaient toutes les conséquences du premier péché. Et Marie l'a porté dans sa foi, son espérance et son amour pour permettre à ce mystère de la mort de Jésus d'aller jusqu'au bout de ses conséquences en elle. L'Église a toujours vécu le mystère du sépulcre, mais je crois que plus nous nous approchons du terme, plus l'Église vivra ce mystère. Et Marthe a été comme un peu le prophète de ce mystère. Les femmes sont prophètes dans les moments particulièrement dangereux. On voit ça dans l'Ancien Testament. On pense à la prophétesse Déborah. On pense à Judith. C'est très curieux. Il y aurait à regarder, hein, les femmes prophètes pour comprendre Marie vivant le mystère du sépulcre et pour comprendre celle qui est si proche de nous, Marthe. Nous donnons comme le sens de ce mystère pour l'Église d'aujourd'hui. On sait très bien les grandes tentations d'aujourd'hui, de beaucoup de jeunes, et de moins jeunes du reste, et on pourrait presque dire de beaucoup de théologiens. C'est de vouloir découvrir comme une Église purement sous la motion de l'Esprit. Une Église d'une âme séparée, qui n'est plus incarnée, pleinement incarnée, comme celle du Verbe devenu chair. La tentation permanente, c'est de séparer l'action de l'Esprit Saint du sacerdoce du Christ, oubliant que le sacerdoce du Christ, dans ce qu'il a d'ultime, c'est le sacerdoce qui nous donne l'Esprit Saint. Il nous donne l'Esprit Saint à travers sa mort, à travers le mystère du sépulcre. Il nous donne l'Esprit Saint dans sa résurrection. C'est une tentation de considérer que le mystère de la hiérarchie de l'Église, le mystère du sacerdoce ministériel, s'oppose au mystère de l'action tout intérieure de l'Esprit Saint. C'est une tentation permanente qui, à certains moments, devient beaucoup plus forte et qui, je crois, dans notre monde d'aujourd'hui, prend une très grande acuité. L'aspect visible de l'Église et l'aspect invisible, il faut toujours tenir les deux. L'Église est un mystère invisible d'amour. Et l'Église implique une incarnation. Et cette incarnation, elle fait partie du mystère de l'Église, du Christ. Il y a l'alliance avec Pierre. Et l'alliance avec Pierre, c'est l'alliance avec nos évêques. C'est l'alliance avec nos prêtres. C'est l'alliance de cette église, pleinement incarnée, et cette alliance visible, elle nous conduit à cette alliance, à cette église invisible, à cette alliance dans l'Esprit Saint. L'Église est conduite par l'Esprit Saint. Mais l'Esprit Saint nous conduit toujours au sacerdoce de Jésus. Et l'Esprit Saint nous relie toujours à Pierre. Et nous fait aimer Pierre. Et nous fait le effet que nous le portons au plus intime de notre cœur. Je crois que ce soir, nous devons, auprès de Marie, comprendre un peu ce très grand mystère du sépulcre. Le comprendre, vous voyez bien, le regarder, le contempler, l'aimer, et autant que nous le pouvons, en faire la théologie. Parce que souvent, les théologiens ne vont pas jusque-là, alors que c'est dit explicitement dans l'évangile de Saint Jean, dans l'évangile de Saint Luc, il y a ce mystère de sépulture. Et ce mystère de sépulture regarde tout croyant. Cette sépulture qui se réalise par ces grands laïcs, totalement donnés à Jésus. Joseph d'Arimathie, Nicodème, c'est curieux, cet homme, Joseph, capable d'aller parler à Pilate, et Nicodème, ce docteur en Israël, c'est curieux cette rencontre de ce grand laïc, disciple de Jésus. Et de Nicodème. Tous les deux, des disciples cachés, qui se manifestent au moment du plus grand abaissement de Jésus. Et c'est là qu'on voit leur grandeur d'âme. Ce sont ceux qui sont petits, qui ont peur au moment de l'échec apparent, au moment des grands abaissements. Comme si on était totalement rejeté, apparemment. C'est vrai, apparemment, c'est l'ultime moment de l'échec, que le cadavre de Jésus soit remis à la terre, comme tous les autres cadavres. Lui qui s'est dit fils de Dieu, mettre le fils de Dieu dans la terre, c'est invraisemblable. Mettre le fils de Dieu comme tous les hommes mortels, le mettre au même niveau, le remettre à la terre, comme si son cadavre devait connaître la corruption, comme si son cadavre devait être remis à l'anonymat de la terre. C'est vrai, c'est le plus grand abaissement, c'est la kénose la plus profonde. C'est le moment où l'espérance doit devenir très pauvre, toute divine, pour se maintenir comme un grand élan d'amour. Et c'est à ce moment-là où apparaît Joseph, l'autre Joseph. et Nicodème. Et l'un et l'autre réalisent cette liturgie de la sépulture. Le cadavre de Jésus leur est remis. Et c'est eux qui enveloppent le cadavre du Christ du linceul. Tu as voulu que ce linceul du mystère de la sépulture soit le seul signe tangible qui demeure pour nous. Oh, évidemment, il y a bien l'emplacement du calvaire. L'emplacement du calvaire, mais l'emplacement du calvaire, c'est très grand. Et les premiers chrétiens l'ont compris, puisqu'ils ont voulu très vite qu'il y ait la basilique du Saint-Sépulcre, la basilique de la résurrection, qui unissent le lieu où Jésus a été crucifié et le lieu de la sépulture. Cet ultime abaissement, cette liturgie de la sépulture, ce sont ces laïcs, ces deux grands laïcs fidèles qui, au moment du plus grand abaissement, se déclarent disciples de Jésus officiellement, au moment où les apôtres, sauf Jean, sont absents par faiblesse, par lâcheté, par reniement. C'est à ce moment-là où nous voyons la présence de ces grands laïcs liés à Jésus par le cœur, dans une grande fidélité d'amour. Pour le cœur de Marie, ça a dû être très doux de voir la présence de ces deux. Pour le cœur de Jean aussi. Ils sont quand même trois présents auprès de Jésus. Trois hommes. Et Marie et les saintes femmes. Et par respect pour le dernier sabbat, il faut que Marie quitte le lieu et suive Jean. Et que Marie connaisse cette dernière séparation. Ceci fait partie du mystère du sépulcre. Il faut qu'elle soit seule. Et elle a vécu seule. La grande solitude que Marie a connue, elle a connu la solitude des 40 jours quand Jésus était au désert, et elle a connu cette très grande solitude à ce moment-là, et le démon est venu rôder autour d'elle comme le démon est venu rôder autour de Jésus, et il y a eu à ce moment-là des terribles tentations. Et puis il y a cette autre solitude que Marie connaît, solitude du mystère de la sépulture du cadavre de son fils. Et le démon rôde, mais le démon ici n'interroge plus, il est victorieux, d'une victoire momentanée, mais il est victorieux, il est persuadé d'être victorieux. Pas comprendre, hein, dans son intelligence angélique, le Fils de Dieu puisse descendre si bas. C'est un abîme d'humilité, ça. C'est un abîme de pauvreté que l'orgueil du démon ne peut pas saisir. C'est impossible. L'amour seul permet de comprendre ces abaissements, cette kénose ultime. L'amour seul permet cela. L'amour seul permet de comprendre cette humilité suprême. Le démon dans son orgueil ne peut pas saisir cela. Il est persuadé d'être victorieux. Ces deux extrêmes, la manière dont le démon a vécu le mystère du sépulcre et la manière dont Marie l'a vécu, c'est très important pour nous, pour saisir ce qui se passe dans l'Église d'aujourd'hui, pour un peu comprendre ce qui se passe dans l'Église d'aujourd'hui. Puisque le Saint-Père nous a dit que l'Église vivait quelque chose qu'elle n'avait encore jamais vécu, comme méta-tentation. Et c'est pour ça que nous avons le droit, au point de vue théologique, d'essayer d'expliquer cette méta-tentation. Le démon pense qu'il est victorieux aujourd'hui par rapport à l'Église. Le démon s'étant infiltré dans l'intelligence de l'homme par ses grandes idéologies athées est persuadé d'être victorieux. Comme il était persuadé d'être victorieux d'une autre façon, c'est tout à fait différent. Mais il y a des ressemblances. Cet ultime moment de la vie du Christ et ce moment que nous vivons dans l'Église d'aujourd'hui, on voit bien ces deux moments. L'un par rapport au corps du Christ, l'autre par rapport à l'esprit de la vie chrétienne. À l'esprit du chrétien. Le démon est persuadé que grâce à ces idéologies qui ont pénétré si profondément les hommes, depuis 100 ans, que c'en est fait de l'Église, que c'est terminé, que l'Église ne peut plus redécouvrir, reprendre ce qu'elle avait vécu un moment. On sait très bien qu'il y a un renouveau étonnant ce printemps de l'Église, qui coïncide du reste avec ce grand mystère de ténèbres, avec ce grand mystère de l'abomination auprès de l'autel, l'abomination de l'abomination. Il faut essayer de pénétrer dans ces mystères qui sont les mystères des grandes luttes que nous vivons aujourd'hui. Le sépulcre, c'est le moment des grandes luttes, des luttes ultimes, eschatologiques, ultimes, par rapport au mystère de Jésus, et qui éclaire les grandes luttes de l'Église d'aujourd'hui, qui sont des luttes eschatologiques. Le Saint-Père n'a pas hésité de le dire, et Paul VI non plus. Et donc nous devons essayer d'en avoir l'intelligence théologique. Et c'est ce mystère du sépulcre qui doit nous éclairer, qui doit nous donner une lumière très particulière, hein, puisque c'est à l'intérieur de cette division que nous devons découvrir ce mystère d'unité qui seul éclaire. La division n'éclaire jamais. La division demeure obscure et demeure toujours dans les ténèbres. C'est le prince des ténèbres qui divise. Et il croit que c'est lui qui a réalisé la mort du Christ. Il en est persuadé, alors que c'est Jésus qui s'est offert librement. Sa mort est sainte. C'est une mort d'amour. C'est le vado et patrem. Il est bon pour vous que je m'en aille. C'est une mort toute enveloppée d'amour et enveloppée de la grande victoire de l'amour. Mais le démon est persuadé que c'est lui qui a obtenu cette victoire. Dans l'Église d'aujourd'hui, si nous voyons cette très grande lutte et si nous voyons à certains moments comme si le démon était arrivé à prendre possession de l'intelligence des chrétiens et qu'il était arrivé à faire qu'on n'entende plus que sa voix. Nous savons que ce n'est qu'une défaite apparente et que le démon ne peut pas être victorieux du mystère de l'Église comme il ne peut pas être victorieux du mystère de Jésus. Et que, au-delà de cette apparence de grandes luttes et d'échecs, il y a une victoire merveilleuse de l'amour qui déjà se manifeste dans l'Église. Ce renouveau de l'Église qui annonce le retour de Jésus, qui annonce la grande victoire de la résurrection. Il faut demander ce soir à Marie et durant cette nuit et demain, il faut demander à Marie de nous donner cette grâce qu'elle a vécue et elle a vécue pour nous, de ces mystères douloureux qui nous unissent au mystère de la sépulture de Jésus et qui nous font entrer dans ce mystère de sépulture de Jésus, puisque c'est à partir du sépulcre que s'est réalisée la résurrection. Et donc, si je ne regarde pas ce mystère, je n'entre pas pleinement et totalement dans le mystère de la résurrection. Comme si je ne veux pas regarder actuellement dans l'Église ces grandes luttes et ce mystère de sépulture. Je ne peux pas attendre vraiment le retour du Christ et découvrir le renouveau de l'Église. Je ne peux plus découvrir et je ne peux pas découvrir ce qu'il y a de si étonnant dans cette victoire de l'Esprit Saint, dans cette victoire de Jésus actuellement dans notre Église, dans cette Église qui, si souvent, est obligé de se taire, si souvent laisse certaines erreurs être proclamées. Il faut que nous découvrions cela auprès du cœur de Marie et en elle, pour nous préparer à cette espérance merveilleuse, ultime, dernière, cette cette espérance qui attend le retour de Jésus. Mais attendre le retour de Jésus, comprenez bien, il ne s'agit pas du tout, à partir de ce moment-là, se dire on n'a plus rien à faire. Pas du tout. Attendre le retour du Christ, c'est justement cette veillée d'armes, comme Marie dans le mystère du sépulcre. C'est d'être très attentif à tout ce que le Père veut que nous fassions. C'est de mettre toute notre énergie à lutter jusqu'au bout en sachant qu'on est victorieux et que cette victoire est déjà là et que cette victoire est présente. Et donc ce n'est pas du tout baisser la tête, c'est au contraire relever la tête en sachant que si l'Église vit d'une manière très particulière ce mystère de la sépulture du Christ, c'est le signe pour nous que nous vivons quelque chose de particulièrement important et quelque chose de particulièrement grand qui nous est réservé, qui nous est donné gratuitement. Nous n'avons pas choisi cela, mais ça nous a été donné. Comme Marie sait bien qu'elle est la seule à vivre le mystère de la sépulture de Jésus. Je crois qu'elle est la seule à vivre ce mystère. Toute la foi de l'Église, comme dit un père de l'Église, toute la foi de l'Église était comme réservée à Marie. Toute la foi de l'Église, c'était Marie qui la portait. C'est vrai. Les apôtres, les saintes femmes, ils avaient été trop secoués par la croix. Pierre, il a vécu à sa manière le mystère du sépulcre. Il pleure tellement que ce sont ses pleurs qui sont là et qui l'empêchent d'entrer dans le mystère. C'est vrai, il y a aujourd'hui de saints gens qui pleurent tout le temps et qui continuent de pleurer. C'est pas ça le renouveau de l'Église, c'est pas pleurer. Non, c'est de savoir qu'il y a quelque chose de grand à faire. Service de Jésus porté par Marie, parce que la lutte est forte, parce que la lutte est très grande, que la lutte est à son paroxysme. Il faut que nous demandions à la Vierge Marie de nous aider à entrer de plus en plus dans ce mystère de la sépulture de Jésus. Marie a pénétré d'une manière tellement profonde dans ce mystère qu'on peut dire que sa prière a hâté l'heure de la résurrection. Et c'est pour ça que plus nous entrons dans ce mystère de la sépulture de la tête, nous pouvons vivre ce que l'Église vit aujourd'hui. En le contemplant dans la lumière même de la sépulture de Jésus, dans la lumière de la tête. C'est toujours à partir de la tête que nous pouvons comprendre le corps mystique. Et en vivant ce mystère, nous hâtons le retour du Christ. Comme la prière de Marie a hâté le mystère de la résurrection. Et la prière de Marie a hâté le mystère de la résurrection parce que cette prière était saisie par une telle espérance. Jésus ne peut pas rester dans le sépulcre, dans la terre, enfoui dans la terre. C'est impossible. Marie, dans son espérance, sait avec certitude qu'il ressuscitera, qu'il est la résurrection Jésus l'a dit à Marthe. Et Marie l'a gardé dans son cœur. Et Marie le vit pendant ce mystère de la sépulture de Jésus. Il est la résurrection. C'est lui qui redonne vie à tous ceux qui sont morts. Il est venu pour cela, pour être la résurrection plénière des hommes. Et lui, en tant que tête, en tant que premier, vit cette résurrection. Et Marie l'attend dans une espérance vivante. Elle a soif de ce mystère, mais elle est certaine qu'il est la résurrection. C'est pour ça qu'elle n'a pas faibli un seul instant et qu'elle a gardé un grand élan dans son cœur, une grande force. Nous devons lui demander ce soir d'intensifier en nous cette espérance. D'espérance victorieuse de l'amour sur le péché, sur l'orgueil et toutes les conséquences de l'orgueil, sur la souffrance, sur les échecs, sur la mort. Que nous ayons cette espérance, est-ce qu'elle est le... Vivons profondément cet Alléluia de Pâques dans la nouvelle lumière et dans le feu nouveau. Il faut que notre cœur reste disponible à ce renouveau, à cette recréation que Jésus désire réaliser en nous. Chacun d'entre nous, d'une façon spéciale, particulière, il ressuscite pour chacun d'entre nous. Et c'est remarquable quand on regarde l'Écriture, les Évangiles, de voir ce contact particulier de Jésus avec Marie de Magdala, avec Jean, avec Pierre, avec les apôtres, Thomas, les disciples d'Emmaüs. Il y a des petites corrections, hein. Jésus continue de se corriger. Hein. Les disciples d'Emmaüs, ils en reçoivent pour leur compte. Hein. Alors parmi vous, le jour de Pâques, il y en a qui reçoivent pour leur compte. Hein. Le Seigneur leur dit, homme sans intelligence, il n'a jamais dit ça durant son évangile, pendant qu'il était sur la terre. C'est la parole la plus extraordinaire qu'ils disent le jour de Pâques. Hein. Homme sans intelligence, vous n'y avez rien compris. Encore rien compris, alors que quand même... Hein. Et c'est vrai, on voit la correction dans une infinie miséricorde. C'est la taille du Père. Et ça demeure, parce qu'on aura à être corrigé jusqu'à la fin de sa vie. Celui qui prétend hein, être parfait, il n'est pas un disciple de Jésus. Il n'est pas docile à l'Esprit Saint.